BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Chaque semaine, chaque week-end, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et cette semaine, nous allons parler de trois belles entreprises françaises dans le domaine de l'énergie durable. Tout d'abord, Covoltis, qui produit des bornes intelligentes de recharge électrique pour les véhicules. Et en plus, la nouvelle génération de ces bornes va être produite en France, dans la Sarthe. Notre premier invité est Essan Emami, le président et cofondateur de Covoltis. Nous parlerons également de Voltaïka, une entreprise corse qui connaît une croissance très rapide depuis plusieurs années avec ses panneaux photovoltaïques destinés aux bâtiments agricoles. Voltaïka a de grandes ambitions en France, mais aussi désormais en Italie. On en parlera avec son directeur général, Christian Giudicelli, qui est notre deuxième invité. Enfin, vous découvrirez Enogia, qui conçoit des micro-centrales capables de produire de l'électricité à partir de la chaleur émise par différentes installations industrielles ou dans le domaine du transport. Là encore, toutes ces solutions sont nées et développées en France, précisément à Marseille. On en parlera avec Arthur Leroux, le PDG et cofondateur d'Enogia. Mais tout d'abord, pour commencer cette émission consacrée donc aux énergies durables et renouvelables, direction la Bretagne avec une jeune entreprise, Station Rêve, qui transforme d'anciens containers maritimes en stations de recharge et de stationnement pour les vélos. Le concept séduit les cyclistes, bien sûr, mais aussi les collectivités et les entreprises. Le reportage en Bretagne est signé Timothée Marouzet.
Faire du vélo en bord de mer sous le soleil face au grand large, un rêve de vacances. Ça, c'est l'image idyllique de la balade en deux roues. Mais au quotidien, le vélo, c'est aussi disposer d'un stationnement sécurisé et d'une borne de recharge quand on roule à l'électrique. Deux préoccupations auxquelles tente de répondre Station Rêve, une jeune entreprise qui a déjà installé plusieurs stations de recharge à partir d'anciens containers maritimes sur le littoral breton. Son cofondateur, Axel Yoche, a eu la bonne idée il y a 3 ans.
Créer Station Rêve, c'est à partir de plusieurs constats. Le vélo a plein d'avantages en termes d'environnement, il limite les émissions de CO2, en termes d'économique. Par contre, il y a deux limites. Il y a le vol des vélos, qui est un vrai sujet. Il y a plus de 600 000 vélos qui sont volés chaque année en France. Et il y a le manque d'itinéraires cyclables sécurisés qui sont des freins. Donc pour cela, c'est à nous de promouvoir des solutions.
Il propose des stations vendues ou livrées, clés en main, à des collectivités ou à des entreprises, pour tous les usages et pour tous les publics. Du salarié qui vient en vélo le matin au bureau, aux touristes, en passant par des clients de centre commercial, tout est pensé pour favoriser les mobilités douces. Prix de vente d'une station, entre 10 000 et 50 000 euros en fonction des prestations, et son fonctionnement est très simple, comme l'explique Alexandre, ingénieur conception mécanique chez Station Rêve.
Donc pour se connecter à une de nos stations, c'est super simple, il suffit de télécharger l'application Rêve, appli Rêve, on sélectionne la station qui se trouve à proximité sur la carte, on sécurise son vélo et on ouvre la station. Voilà, la porte est ouverte.
Outre la sécurisation, la station est 100% autonome en énergie car dotée de batteries pour stocker l'énergie solaire. Nathalie Taillandier est la directrice du centre commercial Alma à Rennes, le plus grand de la ville, et vient de faire confiance à Station Rêve pour compléter son offre client.
On a travaillé ensemble sur les besoins, sur le cahier des charges des visiteurs, mais également des salariés. Et dans les visiteurs, on a eu 39% des visiteurs qui viennent avec des mobilités douces. De ce fait, il était important d'implémenter le parcours client de services complémentaires gratuits.
Le temps de fabrication d'une station de ce type est d'environ 3 mois. Une vingtaine de stations ont déjà été installées et son fondateur a de grandes ambitions pour les années à venir.
Notre rythme de croisière qu'on vise, c'est d'installer 200 stations par an à compter de 2026. Donc pour cela, arrivent des sujets aussi d'internalisation d'une partie de la production des stations. C'est des sujets qu'on a actuellement en interne.
Au-delà de la Bretagne, Station Rêve a également été sollicité par des clients à l'étranger, notamment en Suède, en Suisse ou encore au Portugal.
Et on va rester dans la mobilité durable avec notre premier invité, Essan Emami, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc le président et cofondateur de Covoltis, une entreprise que vous avez créée il y a 5 ans à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine. Vous avez juste franchi la frontière vers le Val-de-Marne, vous êtes maintenant à Arcueil. Votre cœur d'activité, ce sont les bornes de recharge intelligentes pour les véhicules électriques. Alors, en quoi sont-elles différentes et peut-être plus intelligentes que les autres modèles?
Absolument. En fait, nos bornes font ce que les autres bornes font, plus le fait que nous réussissons à répartir la puissance entre les bornes d'un parking en tenant compte du besoin du client. Donc si un client est pressé ou a besoin de plus d'énergie, de manière dynamique, on va lui donner une priorité plus forte que celui qui part plus tard ou a besoin de moins d'énergie.
Et c'est pas le même prix si on charge vite ou si on charge un peu
absolument.
Plus lentement.
Et d'ailleurs, dans les calculs d'algorithmes que nous faisons, nous tenons en compte les tarifs d'achat d'électricité de sorte que nous fassions bénéficier le client de tout ce qu'on peut récupérer par ailleurs en termes d'économie. Et il faut savoir que ce sont des aspects dynamiques. Ça veut dire que finalement, il y a un véhicule qui arrive, un véhicule qui s'en va. On refait les calculs et il y a de l'IA derrière. Donc, quelque chose qui est assez innovant et que jusqu'ici n'a pas été égalé par d'autres.
Vous ciblez quel public jusqu'ici que les entreprises, mais vous évoluez?
Alors, globalement, on est présent dans tout ce qui est marché d'entreprise ou marché d'hôtellerie, puisque c'est une de nos cibles favorites. Nous offrons des services complets aux hôteliers pour que les clients des hôtels puissent se charger. Et également, nous, avec un nouveau produit qui va sortir d'ici peu, nous adressons plus particulièrement le marché résidentiel.
Sur ce parc pour les hôteliers, donc vous avez 1500 bornes à peu près, dont vous êtes le propriétaire. Et c'est pour vous donc un modèle économique basé sur quoi? C'est de la vente du matériel, c'est de la location?
Alors pour la partie hôtel, dans le jargon, on appelle ça du tiers investisseur, c'est-à-dire que c'est nous qui investissons. C'est nous qui restons propriétaires des bornes et pendant le temps qu'il faut. Et finalement, nous offrons le service aux clients de l'hôtel qui nous paye son prix de recharge et nous reversons une petite partie du revenu à l'hôtelier. Donc l'hôtelier est content puisque son problème de recharge de ses clients est résolu par nous et le client peut venir avoir n'importe quel moyen de paiement de recharge et nous nous occupons de l'ensemble du service. À côté de ça, on a plutôt le marché des entreprises où globalement, nous vendons le service clé en main pour l'entreprise, mais néanmoins l'entreprise peut décider d'ouvrir ses bornes de recharge à des gens de passage comme des clients, comme des visiteurs, et c'est nous qui nous occupons de toute la partie gestion de la facturation.
Et pour vous, quel est le modèle le plus intéressant économiquement parlant?
Alors, les deux sont intéressants, mais dans tout ce qui est marché de l'entreprise, le client est beaucoup plus regardant, et forcément c'est naturel, sur le prix de l'électricité, puisqu'il va toujours comparer ce prix-là, c'est un usage quotidien qu'il a, à ce qu'il va payer potentiellement chez lui, alors que sur l'hôtel, on rend un service pour un client de passage qui va forcément regarder ce qu'on fait, à ce qui se passe sur l'autoroute où le prix est relativement élevé.
Alors vous nous avez un petit peu divulgué votre nouveauté, c'est une nouvelle borne, une nouvelle génération de bornes, c'est la Cobox Mini.
Absolument.
Cette particularité, c'est qu'elle va être produite 100% en France. Racontez-nous ces particularités, on va dire technologiques, et puis ensuite on parlera du Made in France.
Alors si ceux qui peuvent aller sur notre site peuvent voir que la Cobox actuelle est déjà pas mal donc côté on va dire design, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un produit tout en électronique, donc on a réduit la taille du produit, on l'a rendu forcément plus robuste, et le fait que ça soit un produit tout en électronique fait que le produit peut être fabriqué justement dans des usines quasi automatisées avec un peu d'intervention humaine, et nous avons conclu un accord avec une société qui s'appelle Building Solutions qui est dans la Sarthe, à la Ferté-Bernard, avec donc une chaîne de montage qui a été montée, qui va nous permettre de faire beaucoup de bornes proche de chez nous, avec forcément un bilan impact carbone réduit, et on est fiers aussi que la borne soit produite en France.
Quand vous dites beaucoup de bornes, c'est quel objectif de production?
Alors, ce que nous espérons, c'est d'atteindre assez rapidement les 1000 bornes par mois, et j'espère plus, puisque c'est un marché qui est en très forte croissance, on n'est qu'au début du marché des véhicules électriques.
Et 8000 dès cette année 2024, hein, je crois.
8000 sur cette année et une partie de l'année prochaine.
Une partie de l'année prochaine. Voilà. Un point important donc, pour certifier le Made in France, c'est ce label Origine France Garantie. Vous venez de le décrocher, donc ça prouve bien que vraiment 50% au moins des composants utilisés et des étapes d'assemblage sont bien faites en France.
Et dans le cas d'un produit électronique, c'est même beaucoup plus que ça. Ça veut dire qu'il faut que la carte électronique soit fabriquée en France, et vraiment la plus grosse partie de la valeur d'un produit tel que le nôtre est dans la carte électronique.
Jusqu'ici, vos bornes, vous les fabriquez où?
Alors, on avait deux phases d'assemblage, une première phase en Chine et une deuxième phase où on terminait l'assemblage, où on faisait les tests à Nemours, à côté de Fontainebleau, chez un partenaire qui s'appelle Lewis Industries, et finalement, cette deuxième borne sera 100% fabriquée à la Ferté-Bernard.
Et le prix de ces nouvelles bornes, donc les Cobox Mini?
Alors, le prix public sera de 1000 euros TTC. À ce prix, il faudra ajouter le prix de l'installation. D'ailleurs, nous travaillons avec un groupe de distribution de produits un grand nom que je divulguerai, j'espère, une autre fois avec vous, tout ce qui est produits électroniques et électroménagers, où les gens pourront acheter la borne et l'installation tout en un. Et c'est nous qui nous occuperons ensuite de l'installation des bornes. Et pour l'installation, il faut compter en moyenne 600 euros. Mais de ça, on déduit un crédit d'impôt qui est accordé à l'utilisateur qui est de 500 euros.
Et ça s'amortit parce qu'on génère de l'électricité, etc. etc. Ça,
alors globalement, déjà quand vous installez une borne chez vous par exemple, vous allez payer votre électricité 3 à 4 fois moins cher que si vous allez sur un superchargeur.
Oui.
Donc sur la durée de vie de votre véhicule, vous allez faire 10 à 12 000 euros d'économie. C'est qui sont largement au-delà de ce que vous coûte la borne et son installation.
Pour terminer, quelques chiffres clés sur l'entreprise. Donc, on a dit créé en 2019. Vous avez effectué une levée de fonds de 10 millions d'euros en octobre 2022 et il vous faut vous développer. Donc, je crois qu'une autre est en cours.
Absolument. Nous avons une levée en cours qui va, j'espère, d'ici fin juin, être bouclée.
À quel niveau ?
C'est encore confidentiel, mais
un multiple
de ce qui a été fait auparavant.
Très bien.
Et ensuite, l'objectif avec cette nouvelle levée, justement, c'est de nous aider dans le développement de notre stratégie de tiers investisseur, donc déployer beaucoup de bornes dans beaucoup d'hôtels à travers la France, mais également dans les copropriétés où nous sommes présents à travers un partenariat avec une société qui s'appelle Ista, où nous pouvons déployer également des bornes dans l'ensemble des copropriétés.
Et un tout dernier chiffre sur le nombre de salariés. Vous êtes actuellement 70. Oui. Ça va bouger dans les prochains mois ?
Ça va bouger surtout dans la partie gestion des déploiements et la partie commerciale. La partie technique, on est déjà assez bien.
Il faut vendre maintenant, c'est ça. Vous avez le savoir-faire, il faut vendre.
Tout à fait.
Merci beaucoup et on va passer à une commercialisation de produits qui ne sont pas tous fabriqués en France, malheureusement, mais on va en parler. Bonjour Christian Giudicelli, pardon, vous êtes directeur général de l'entreprise Voltaïca et vous déployez donc des centrales photovoltaïques, notamment sur des hangars agricoles. C'est bien ça, le cœur d'activité.
Oui, alors pas que sur des hangars agricoles, mais c'est vrai que le monde agricole
est un gros client pour vous.
Offre de grandes opportunités, oui.
Et je le disais, donc voilà, donc c'est compliqué. On a beaucoup parlé du déclin, des difficultés de la filière photovoltaïque en France. Donc, vous ne mettez que des panneaux venus de Chine ou de quel pays ?
Oui, ils viennent de Chine essentiellement, nos panneaux aujourd'hui. On va être signataire du pacte solaire proposé par le gouvernement, puisque on souhaite participer à cette mouvance de réindustrialisation de la France. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'autres choix.
Vous suivez avec attention les projets de carbone du côté de Fos-sur-Mer. Ça peut être un de vos futurs fournisseurs ?
Oui, ce sera certainement un de nos futurs fournisseurs. Oui.
Alors donc, votre entreprise, vous l'avez créée en 2008 avec votre frère Jean-Marc. Combien, à l'instant T, vous avez déployé de ces dispositifs photovoltaïques ?
Oui, on a 654 exactement à date de centrales en exploitation ou en cours de développement. Et on cible à 2030 une exploitation de 1 gigawatt de puissance, ce qui est quand même assez important.
Le modèle économique, même question qu'à propos donc de notre invité précédent, c'est quoi ? Vous faites de la vente, de la location, de la maintenance ensuite ? Comment ça fonctionne ?
On peut faire de la vente à un investisseur qui est lui-même propriétaire de sa toiture, mais essentiellement nous sommes aussi sur du tiers investisseur. Donc ça veut dire qu'on va être nous-mêmes exploitants de la centrale, investisseurs et exploitants de la centrale, et on est hébergé par des propriétaires de toitures, puisque les toitures sont notre support principal, toiture ou ombrière de parking, qui offre un gros potentiel.
Et la réglementation, elle vous est très favorable, parce qu'évidemment on incite de plus en plus à faire des ombrières dans les parkings aux particuliers, aux agriculteurs de s'équiper. Vous êtes dans un marché hyper tendance.
Oui, alors il faut reconnaître à nos politiques qu'ils ont donné des conditions très favorables au développement des énergies renouvelables et du photovoltaïque, et très clairement le photovoltaïque ne serait pas développé comme il est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ces incitations d'État.
Votre actualité, c'est le rachat, vous faites de la croissance externe, c'est le rachat de l'entreprise vendéenne Stilgo, spécialisée dans les structures métalliques, les couvertures et les bardages. Donc si je comprends bien la stratégie, vous aviez déjà les panneaux photovoltaïques que vous installiez, maintenant vous faites aussi le package avec de la structure.
Oui, on est gros consommateurs de charpente métallique. Alors on allait se sourcer au Portugal, en Turquie, donc avec des qualités sur lesquelles il n'y avait rien à redire, mais on n'était pas cohérent avec notre vision des choses et on a voulu en effet intégrer ça dans le groupe, ce qui nous permet de maîtriser une chaîne de valeur un peu plus élargie, et l'entreprise Stilgo que l'on intègre maintenant dans le groupe nous satisfait totalement, avec une équipe à la hauteur de nos attentes.
Deux avantages, donc voilà, des marchés qui se renvoient l'un à l'autre, une extension géographique, on l'a pas dit, vous êtes une entreprise née en Corse, votre siège est à Bastia, vous avez déjà des antennes à Nice, à Toulouse. Finalement, il vous manquait un petit peu la partie nord de la France, et c'est peut-être avec Stilgo, le Vendéen, que vous l'obtiendrez.
Oui, alors, plus exactement, on est vraiment présent sur tout le territoire français, puisque nous avons des chargés d'affaires, 80 chargés d'affaires aujourd'hui, plus de 100 d'ici la fin de l'année, nous l'espérons, qui rayonnent et qui quadrillent l'ensemble du territoire. Néanmoins, c'est vrai que ce positionnement en Vendée avec l'usine nous offre un champ d'action plus grand, et la possibilité aussi de nous construire une zone de stockage dont on a besoin aujourd'hui.
En termes d'effectifs, Stilgo, c'est un peu moins de 50 personnes, vous m'avez dit 47. Et combien sur vos activités, vous, en tant que marque Voltaïka?
Alors, Voltaïka emploie aujourd'hui 61 personnes en CDI, plus 80, je vous disais, agents commerciaux chargés d'affaires qui travaillent exclusivement pour Voltaïka, qui représentent Voltaïka sur le terrain. Donc, globalement, ça fait une 140 personnes à peu près.
Et des effectifs qui vont croître encore? Vous avez quelques soucis peut-être, parce qu'on parle ici beaucoup des soucis de recrutement. Est-ce que ça vous concerne?
Alors, ça nous a concerné au début, moins aujourd'hui, puisque notre marque employeur commence à être un petit peu meilleure. Les gens souhaitent venir nous rejoindre, et c'est tant mieux pour nous. Nous avons une vingtaine de nouvelles recrues à embaucher d'ici la fin de l'année dans tout le groupe, et avec des profils variés d'ingénieurs, d'acheteurs, de développeurs, de chefs de service, et j'en passe.
Et vous avez même créé, je crois, l'année dernière, une Voltaïka Academy, hein, je crois, c'est ça?
Oui, alors, on est parti du constat que c'était encore un métier qui nécessitait de la formation et qui n'était pas forcément offerte à l'extérieur. Il nous a paru donc intéressant d'avoir ça, d'internaliser cette formation, en donnant à chacune de nos recrues une formation initiale, puis ensuite une formation continue, donc avec la marque Voltaïka Academy.
Alors, je le disais, vous êtes sur un marché hyper tendance, et ça se concrétise dans la croissance. Chaque année, nos confrères des Échos avec Statista établissent un classement des champions de la croissance. Une nouvelle fois, vous êtes alors 7e de cette édition 2024, toutes catégories confondues, et même 1er dans la catégorie énergie, avec une croissance à deux chiffres. Juste quelques chiffres: de 2018 à 2022, votre chiffre d'affaires est passé de 375 000 euros à 20 millions d'euros. C'est juste parce que c'est un marché tendance, ou est-ce que vous êtes un bon gestionnaire et un bon commercial aussi?
Alors, ben, espérons qu'on puisse dire que nous sommes, toute l'équipe de Voltaïka, de bons gestionnaires, et qu'on fait bien les choses. Néanmoins, on peut pas nier que les conditions sont favorables et que tout est mis en place pour nous aider à développer les énergies renouvelables en France.
Un mot de l'expansion à l'international, je le lisais dans les titres, vous visez nos voisins italiens bientôt?
Oui, c'était assez naturel pour nous, en pensant à l'international, de cibler l'Italie, puisqu'il y a une proximité géographique et culturelle. Donc on va commencer par l'Italie, j'espère d'ici quelques mois avoir notre première présence là-bas, et puis ensuite on verra.
On parlait de levée de fonds il y a quelques instants avec Covoltis. Vous en avez vous-même réalisé une en 2023 de 2 millions d'euros. Et puis, dans une interview, j'ai lu que vous visiez une entrée en bourse en 2026. C'est toujours dans les tuyaux?
Oui, alors, avant l'entrée en bourse, qui est une idée qui n'est pas encore tranchée, mais en effet, on y pense, il y a une levée de fonds avec une augmentation de capital qui est prévue pour les semaines à venir. Enfin, en tout cas, d'être lancée les semaines à venir. On va cibler quelques investisseurs à qui on va présenter notre projet, qui est une levée de fonds d'une ampleur...
De combien?
Alors, on n'a pas encore défini, donc c'est difficile pour moi, mais globalement, ça va être quelques dizaines de millions d'euros, a priori.
Eh bien, voilà, les mêmes niveaux que Covoltis. Oui. Donc, vraiment, il y a de l'argent à aller investir dans ces deux entreprises. Merci beaucoup. Merci. Christian. Et on va enchaîner avec une entreprise qui, elle, est déjà cotée en bourse depuis, je crois, 2021, c'est ça?
Tout à fait, oui.
Bonjour, Arthur Leroux. Vous êtes le PDG et cofondateur d'Enogia. Alors, vous allez créer à Marseille en 2009. On reste dans la moitié sud également. On va parler un peu de technologie. C'est quoi le cœur d'activité d'Enogia?
Alors, à Enogia, on est parti du constat que de toute l'énergie utilisée par l'humanité, à peu près les trois quarts terminent rejetés dans l'environnement sous forme de chaleur, pour se dire que cette chaleur, ben, on pouvait probablement faire quelque chose d'utile. Et on le voit avec vos reportages et mes confrères, une énergie qui est particulièrement utile dans la décarbonation de notre industrie et de nos transports, c'est l'électricité. Donc on a développé une technologie qui permet de convertir des rejets de chaleur, en particulier à relativement basse température, hein, concrètement on parle d'eau chaude, en électricité. Donc transformer la chaleur contenue dans ces rejets d'eau chaude, qui sont produits dans des activités industrielles, dans des activités de transport, en électricité, qui va être soit revendu sur les réseaux, soit utiliser localement pour réduire sa facture électrique et son empreinte carbone.
Et donc vous, votre apport, voilà, c'est d'avoir créé cette technologie, ces micro-centrales, micro-turbines qui permettent cette transformation.
C'est ça, donc c'est un produit technologique relativement complexe et on a passé en effet plusieurs années à faire de la recherche, du développement, de l'expérimentation pour mettre au point cette technologie que derrière on a développée dans une gamme de produits de 10 à 200 kW électriques qui permettent aujourd'hui de couvrir beaucoup d'applications parce que c'est quelque chose qui est modulaire, un peu comme un panneau photovoltaïque, on peut en mettre plusieurs et donc faire également des centrales un peu plus grosses.
Et ces centrales, vous les produisez en France ?
C'est fabriqué à Marseille, dans notre usine, dans les quartiers nord de Marseille.
Vous en avez produit combien depuis que vous êtes en phase industrielle ?
On en a produit à peu près 150 et on est sur un rythme qui a tendance à s'accélérer.
Et le coût de ce dispositif est la même question qu'à nos autres invités, le modèle économique, est-ce que vous mettez à disposition les machines en location, en vente, est-ce qu'il y a de la maintenance derrière ?
Alors historiquement, on est vraiment un fabricant de machines et pendant les 10 premières années de la commercialisation des produits Enogia, on a vraiment été un vendeur de machines pour des utilisateurs. Depuis 2 ans, on a créé avec Adam Investissement la société Enogia Assets Industry et avec Eiffel Gaz Vert, la société Enogia Assets Biogaz, qu'on regroupe au sein d'une marque commerciale Green Shield Power Solutions, dont le but est de mettre à disposition des machines aux utilisateurs et plutôt que de leur vendre la machine, leur vendre un contrat de fourniture d'électricité décarbonée, long terme et avec un tarif très compétitif qui leur permet à la fois de réduire leur facture énergétique, d'assurer une stabilité de cette facture et de se décarboner.
Est-ce que cette électricité qu'ils produisent, c'est de l'autoconsommation ou est-ce que ça peut être reversé dans le réseau
commun ? Ça va dépendre vraiment des situations. Si on est en présence d'un industriel qui a une facture énergétique assez lourde, il va plutôt vouloir l'autoconsommer. Dans d'autres cas, si on est chez, par exemple, un agriculteur qui fait de la méthanisation, lui, il va plutôt avoir tendance à revendre cette électricité au réseau.
Vos clients, je me suis aperçu en préparant cette émission, qu'ils étaient finalement assez peu français. Vous exportez beaucoup. Vous êtes dans combien de pays et dans quel pays ?
Alors c'est assez historique, mais quand on s'est lancé, les prix de l'énergie étaient plus élevés dans les pays qui nous entouraient qu'en France. Donc
merci,
on a commencé
le nucléaire décarboné en France, c'est ça ?
Entre autres, le parc nucléaire historique, tout à fait, qui permettait d'avoir des coûts de l'énergie assez faibles. Et donc on a commencé par vendre à l'étranger. Donc on a commencé principalement sur 2 zones, l'Europe de l'Ouest et l'Asie, l'Extrême-Orient. Et aujourd'hui, je dirais qu'on est très présent en Allemagne, en Angleterre notamment, on est en train de se développer en Italie, et puis sur la partie Extrême-Orient, plutôt en Corée du Sud, en Chine, et on travaille également le Japon et Taïwan.
Vous parlez de vos sources de chaleur, vous les diversifiez aussi, donc vous allez de plus en plus vers le maritime et la géothermie. 2 clients récents, je crois, les chantiers de l'Atlantique pour des navires de croisière, et puis pour la géothermie, un cimentier du côté de Taïwan, c'est bien ça ?
C'est exactement ça. Donc depuis l'année dernière, le secteur maritime accélère énormément dans sa décarbonation, et l'emploi de nos machines sur un gros navire permet de réduire la consommation de carburant, quel que soit ce carburant, qu'il soit un carburant fossile ou un carburant de nouvelle génération. On va vraiment réduire la facture énergétique de ces navires grâce à ces machines et améliorer leur efficacité énergétique. Quant aux clients à Taïwan, c'est un groupe cimentier qui désire investir dans la production d'énergie renouvelable, en particulier grâce à la géothermie, où Taïwan a la chance d'avoir une ressource géothermique très importante, et c'est un marché qu'on regarde de très près, ainsi que le marché japonais, où là aussi la ressource géothermique est significative.
Et tous ces marchés, ça vous amène à un chiffre d'affaires 2023 de 5,1 millions, plus 53% versus 2022. Mais il y a quelques années, quand je lisais vos interviews, vous parliez d'un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros en 2025. Objectif nettement revu à la baisse. Qu'est-ce qui a coincé dans la stratégie ?
Alors, on communique maintenant plus sur le chiffre d'affaires de notre activité ORC. On avait prévu une croissance très rapide de notre deuxième activité qui développe des compresseurs pour les piles à combustible hydrogène. On a l'impression que le marché de l'hydrogène, de la mobilité hydrogène, va croître un peu plus lentement que ce qu'on espérait il y a quelques années. Néanmoins, notre activité ORC connaît toujours une croissance très forte. Et notre activité hydrogène, elle, en attendant un marché plus important, a été redirigée vers de la réalisation de prestations de conception de turbomachines et donc a vocation à devenir une activité rentable également pour la société.
Nos deux invités précédents, donc Essane et Christian, nous ont parlé d'embauche. Est-ce que vous, ça va être le cas? Je crois que vous êtes actuellement une cinquantaine de personnes, c'est ça, à la fin 2023?
Tout à fait, on est une cinquantaine sur notre site de Marseille. Ça va rester relativement stable. Notre préoccupation depuis début 2023, c'est d'améliorer l'efficacité de la société. On a réussi à produire 50% de plus avec des dépenses très nettement réduites et on continue à travailler cette efficacité opérationnelle pour notre objectif, c'est d'avoir un EBITDA positif sur 2024, sur toute l'année.
Parce qu'il faut vous rendre des comptes, je lisais, vous êtes en bourse depuis l'été 2021 sur le marché Euronext Growth à Paris. Augmentation de capital également l'été dernier, 4,6 millions d'euros. C'est quoi les prochaines étapes en termes de capital ?
En termes de capital, pour l'instant, on est doté de ce qu'il nous faut pour assurer notre croissance. On a eu la chance d'être renforcé l'été dernier, notamment au sein de ce pool de 4,6 millions d'euros de nouveaux capitaux par Eric Blangarin et Yazid Sabek qui ont rejoint notre conseil d'administration et qui nous aident à être meilleurs et à continuer notre développement et notre croissance très rapide avec cet objectif de 50% de croissance également cette année. On l'a vu, c'était notre objectif l'année dernière, il a été réussi. Ouais. On le vise également cette année et l'année
2024.
Prochaine.
Eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Donc, Arthur Leroux, cofondateur de Enogia. Je précise que vous aviez reçu également un trophée PME RMC. On va avoir peut-être quelques photos. C'est un événement auquel BFM Business sera associé cette année. Merci beaucoup à tous les trois. La semaine prochaine, nous reviendrons sur quelques-uns des meilleurs moments de la France à tout pour réussir depuis le début de l'année. Notre émission, vous le savez, est diffusée en télé, en radio et sur tous les supports digitaux. Très bonne journée, très bon week-end et à très bientôt sur BFM Business.
BFM Business, la France a tout pour réussir.